Raymond, merci, chers amis. C'est un plaisir d'être au milieu de vous ce matin, surtout un matin de résurrection, un matin de Pâques. C'est vrai que prêcher à Pâques, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse imaginer, parce que c'est la journée exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment la journée qui fonde l'Église, c'est la journée universelle qui est le temps de bascule entre un monde de doute et de difficulté ou de crainte en direction d'un monde de certitude, de lumière, d'espérance et de joie. La résurrection. Alors, c'est le titre que j'ai donné, mais j'ai réalisé qu'on aurait pu donner aussi un autre titre à ma prédication, qui est celui-ci, « La résurrection, le salut des hommes » et le salut de la terre. Peut-être une petite parenthèse avant que j'aille plus loin. Merci à vous toutes et tous qui avez pensé à moi, prié pour moi, pour mes questions de chirurgicales, oculaires, glaucome, etc. Voilà, tout va bien. Enfin, c'est vraiment très, très, très aimable à vous. Vous voyez, j'ai vécu aussi ma propre petite résurrection. Alors, merci à vous de votre amitié. La résurrection, salut des hommes, salut du monde. Alors, va-t-il venir? Non? Pour qu'il vienne, tout simplement. C'est important. Oui? Comment là-bas? Mais alors. Pardon? Je l'ai allumé. Ici, il est allumé, hein, ça c'est sûr. C'est l'autre. Voilà, merci, oui, à force de, voilà, on y arrive vite quand on nous explique longtemps. Bien, donc, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, c'est le mot qui explose dans tout le monde chrétien, il est ressuscité, c'est cette magnifique affirmation que nous répétons, il est vraiment ressuscité, c'est la manière dont les orthodoxes rebondissent pour attester la réalité de cette résurrection. Ici, vous avez un tableau qui se trouve dans une église dans le canton de Genève, l'église de Caulet, et vous voyez sous la plume d'Arcabas, et je trouve absolument majestueux, il faut imaginer que ce tableau fait de l'ordre de 2 à 3 mètres de haut, c'est absolument majestueux de représenter Jésus avec cette énergie extraordinaire qu'il habite, l'énergie de la résurrection, tout en marquant encore les stigmates qui ont marqué ses souffrances, et puis au-dessus de sa tête, tous les anges qui s'apprêtent à mettre sur sa tête une couronne, la couronne du vainqueur, et à célébrer sa victoire. Jésus est ressuscité. Vous savez, chers amis, j'ai souvent prêché sur le thème de la résurrection. Probablement, tous les dimanches de Pâques, j'étais au Lutrin pour célébrer cette belle journée. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur cet événement, il y a tellement de belles situations à évoquer, les femmes au tombeau, tu en as parlé, la rencontre avec Marie-Madeleine, le dialogue entre Marie-Madeleine et ce soi-disant jardinier qui s'est révélé être Jésus dans toute sa personne mystérieuse. Et puis les disciples qui courent au tombeau et puis ceux qui le croisent sur le chemin d'Emmaüs. Ce matin, à vrai dire, j'ai vraiment à cœur d'élargir la perspective pour méditer sur l'impact de la résurrection de Jésus dans nos vies et dans le monde entier. Aussi, voici le plan de ma prédication. Il est vraiment ressuscité. Le péché a défiguré la bonne création de Dieu. L'éco-anxiété, c'est en fait le cri de la création. Dieu fait partie de l'équation, la souveraine bonté de Dieu, et puis la guérison des nations. Voilà, un certain nombre de thèmes que j'aimerais partager avec vous ce matin, et qui, comme je vous l'ai dit, élargissent ma compréhension de la résurrection pour ne pas la cantonner simplement à notre expérience de chrétien, notre expérience personnelle. Je commence par cette parole de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a vu venir Jésus à pour se faire baptiser. Il a vu venir Jésus à la cérémonie des baptêmes, enfin à la pratique des baptêmes qu'il vivait dans le Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste a vu venir Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est un très beau tableau qui se trouve au musée russe de Saint-Pétersbourg. Et quand je l'ai vu, mais il m'a vraiment flashé, ce qui fait que je suis tellement content d'en avoir retrouvé son image. Cette parole, elle est inspirée, elle est d'une puissance extraordinaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une affirmation qui est d'un impact quasiment cosmique. Le péché du monde, eh bien, quel est-il ? Eh bien, c'est d'abord le péché des humains, bien sûr. Hommes et femmes sont enfermés dans la révolte contre Dieu. Romains le dit très clairement, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais alors tous sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Vous sentez ? Chaque mot, chaque phrase de cette affirmation qui sont autant de pierres blanches à marquer sur le chemin et qui jalonnent notre chemin. Donc, le péché que Jésus est venu ôter, eh bien, c'est d'abord le péché des humains, le mien, le nôtre, mais pas seulement. Parce que toute la création a été impactée par le péché des hommes. En fait, le péché des hommes a contaminé et les hommes, et les bêtes, et toute la création. Tout l'écosystème a été corrompu par le péché originel. Parce que, souvenons-nous, le péché originel, c'est vraiment ce qui a rompu notre communion avec Dieu. Le péché, c'est tout ce qui a perturber le développement harmonieux de la création. Développement harmonieux de la création, ben, on le trouve dans la Genèse, c'est évident. Dieu dit, et cela se fit, et Dieu dit, cela était bon. Cela est bon, les oiseaux apparaissent, la terre et la mer apparaissent, les oiseaux, les végétaux apparaissent, et chaque fois, Dieu répète, cela est bon. Et quand les hommes viennent, Dieu dit « cela est très bon ». Mais voilà, vous le savez bien, tout cela a été défiguré. Le péché a contaminé toutes les relations humaines, à commencer par l'expérience de Caïn et d'Abel. Donc le péché a défiguré la bonne création divine. Nous le savons, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Où se trouve ce texte ? Nous le savons, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Qui a eu l'audace, la clairvoyance de dire une parole pareille ? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul au chapitre 8 des Romains. Et voilà le texte. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. La vanité, c'est le néant, c'est le vide, c'est le non-sens, c'est l'absence d'horizon, l'absence de valeur. Enfin, vraiment, c'est la mort. Non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et là, tous les commentateurs reconnaissent l'autorité divine. C'est Dieu qui a soumis cette création au néant. Parce que, en fait, Dieu a soumis la création aux conséquences des comportements des hommes. Mais avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais c'est nous aussi qui soupirons en attendant notre salut. Je trouve que cette phrase est tellement importante. À vrai dire, nous ne pouvons pas vraiment être chrétiens sans vibrer, sans raisonner au sens de résonance, non pas à réflexion, mais sans raisonner à ces termes qui sont d'une rare profondeur. et de d'entendre lorsque nous voyons le monde qui nous entoure, lorsque nous écoutons les nouvelles à la radio, lorsque nous voyons la télévision, entendre derrière tout ce qui est dit un ardent désir de la révélation des fils de Dieu, un ardent désir de la révélation de notre message à nous, l'Église de Jésus-Christ, dans son acceptation la plus large, mais aussi dans l'attente que soit manifesté son salut. Donc voilà l'autre impact, j'allais dire, du message de la résurrection. Alors c'est vrai que le péché a défiguré la création. Et cette défiguration s'est marquée en particulier dans les dérèglements climatiques auxquels nous assistons. Alors, je ne veux pas allonger, mais on peut les évoquer très rapidement, les canicules excessives qui produisent des sécheresses et des incendies catastrophiques, des incendies en Californie, en Australie, au Canada, enfin dans des régions qui n'avaient jamais vu des incendies de leur vie. Tout à coup, ça a pris feu d'une manière absolument incroyable à cause du dérèglement climatique. Ou alors, à l'inverse, des précipitations diluviennes. Et nous avons tous en mémoire les précipitations qui ont atteint l'Allemagne en juillet de l'année dernière. Donc, c'est pas si vieux. En juillet de l'année dernière, il y a eu plus de 150 personnes ensevelies, tuées par ces flots d'eau qui envahissaient les vallées du centre de l'Allemagne. Et nous sommes confrontés à la réalité de la désertification d'immenses territoires. Nous avons survolé il y a 4 ans la mer d'Aral. Voilà, c'est un pays où il y avait une jolie mer qui irriguait tout un territoire et qui maintenant a disparu. La fonte de la calotte glaciaire, la montée des eaux, bref, l'écosystème est perturbé, disparition de nombreuses espèces végétales. Et alors, les météorologues, les océanologues, les climatologues, les glaciologues et autres physiciens et biologistes tirent la sonnette d'alarme. Nous sommes dans une situation d'anxiété, symbolisée par cette glace qui fond. Et j'aime bien cette image, l'éco-anxiété. Nous savons que la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Et qui porte le cri de ce gémissement? Alors, le cri de ce gémissement, il est porté par l'organisation Arocha. Et vous pouvez très bien le demander à Alain Vanet, qui vous en... n'est-ce pas, hein? Il hoche de la tête, et Arocha est là pour nous dire, mais le monde gémit, le monde souffre. Le cri de ce gémissement est porté par le dernier journal Vivre. Vous avez tous reçu le dernier journal Vivre, tous qui êtes abonnés. Et puis si vous n'êtes pas abonnés, eh bien, il y en a encore 2 ou 3 sur le présentoir. Donc le journal Vivre porte ce cri de la création qui souffre et qui dit « mais je souffre, il faut faire quelque chose pour prendre soin de moi ». Le cri de la création tout entière est porté par cette extraordinaire figure qui est Greta Thunberg. Je trouve admirable cette femme qui a été suscitée comme ça dans son jeune âge et qui a pu avoir une audience mondiale absolument extraordinaire et qui a pu bouleverser nos consciences de nantis sur de nous et de notre bonne conscience. Eh bien, là, elle a fait entendre un message qui est absolument remarquable. Ce cri a été aussi répercuté par Jacques Dubochet. Ça me touche passablement parce que je me souviens avoir vécu pendant 6 mois une cellule de maison dans laquelle Jacques Dubochet venait régulièrement nous visiter et avec lui nous méditions des textes bibliques et nous méditions des textes profanes sur le sens de la vie et sur le sens de la création. Le cri de la nature tout entière qui gémit est porté par le mouvement Extinction Rébellion. On ne devrait pas l'appeler comme ça, on devrait plutôt l'appeler « rébellion contre l'extinction ». Alors évidemment, ça choque, et puis ils le font d'une manière qui peut troubler, mais si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, Abdias, Ézéchiel, etc., etc., vous trouverez parfaitement les mêmes discours que ce que nous tient « extinction, rébellion » à l'heure actuelle. Le cri de la création est porté par Greenpeace, et j'en passe. C'est vrai que tout cela provoque de l'anxiété. Quelle est la qualité de vie pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir? Et ce cri, j'ai envie de dire, heureusement qu'il a été entendu et qu'il a été mis en œuvre. La ville de Londres était invivable dans les années 30-40, jusqu'à ce que le gouvernement décide d'assainir la situation de Londres, qui a retrouvé, par exemple, une pureté de l'air telle qu'elle n'en avait plus connue depuis des dizaines d'années. L'éco-anxiété est en particulier relayée par la jeunesse. La jeunesse a un fort sentiment d'urgence parce que la jeunesse est dans un rapport à l'avenir, à la vie, qui est bien différent de celle de la génération des papy-boomers. Bien sûr, la génération des papy-boomers dont je suis regarde cela d'un petit peu de haut parce qu'elle, elle a fini sa vie. Elle l'a réussi, entre guillemets, hein, selon les critères très humains et des valeurs très humaines. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Est-ce que c'est vraiment accumuler de l'argent, des voyages, de la richesse, des maisons, que sais-je, des titres sociaux, etc. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Jésus nous l'a montré quelque chose d'un petit peu différent. Mais bon, c'est vrai que les papy-boomers sont un petit peu déconnectés vis-à-vis de cette cri tripale de la jeunesse qui dit, ben voilà, je souffre et j'ai peur. Parce que beaucoup considèrent que l'avenir de notre planète est vraiment mis en cause. No future. C'est dans le journal de La Barque, ce lieu de rencontre de la Madeleine, que nous lisons ceci. Depuis quelques mois, un terme s'est répandu sur notre Terre, l'éco-anxiété. Beaucoup considèrent le futur de notre planète comme effrayant et même pensent que l'humanité est condamnée, car nous allons échouer à prendre soin de notre planète. Ces perspectives négatives s'ajoutent aux dégâts psychologiques résultant de la pandémie que nous traversons depuis mars 2020. Voilà, se tirer juste du journal de La Barque. Bien, ces soupirs ont été, Dieu merci, largement entendus. Et en particulier, nos autorités universelles ont mis en place le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est une organisation ouverte à tous les pays membres des Nations Unies, et qui travaille à établir des rapports pour analyser le phénomène. Et puis, vous savez qu'il y a eu les accords de Paris. Alors, les météorologues, les océanologues, les climatologues, les glaciologues, etc., qui tirent la sonnette d'alarme, ont essayé de discerner les causes de l'évolution des facteurs qui influencent et qui déterminent notre écosystème. Et ils ont essayé de mettre tout ça en équation. Alors, je vous fais grâce, mais c'est un travail colossal de mathématiciens qui repèrent les paramètres qui constituent la vie sur Terre, le comportement de la biosphère et l'écosystème. Alors, ces paramètres sont, alors comme c'est mentionné ici, l'évolution, l'émergence du CO2, mais la concentration des gaz dans l'atmosphère, les phénomènes volcaniques, l'effet de serre, et j'en passe. Et on arrive à des schémas extrêmement intéressants pour essayer de comprendre. Et là, il y a un phénomène, un travail que les scientifiques font qui m'échappe complètement, parce que moi, je ne suis pas de cette génération-là et mon monde n'était pas celui-ci. Mais n'empêche, j'ai trouvé intéressant de m'intéresser à ce monde et de découvrir toutes ces mises en formulation, mises en simulation mathématique pour essayer de maîtriser le phénomène. Mais, chers amis, je n'oublie pas que nous sommes le matin de Pâques et que nous sommes dans une église et j'observe qu'il y a un grand absent dans toutes ces formules mathématiques. Vous savez qui est ce grand absent dans ces formules mathématiques? C'est Dieu! Mais bien sûr, Dieu est le grand absent dans ces toutes ces formules mathématiques. Et en fait, si Dieu est absent, ben, on a raison. On a parfaitement raison. Un jour, le physicien Laplace explique à l'empereur Napoléon la cosmologie, c'est-à-dire le phénomène de la rotation des astres et des étoiles dans le ciel. Alors un jour, le physicien, ça devait se passer dans les années 1790-1800, il explique à Napoléon la cosmologie. Et puis Napoléon lui dit, mais mon cher, où est-ce que vous avez mis l'hypothèse Dieu dans votre système ? Et le physicien Laplace dit, mais moi je n'ai plus besoin de l'hypothèse Dieu pour expliquer la rotation des étoiles, pour expliquer tous les phénomènes physico-chimiques de l'existence. Parce qu'en fait, oui, Dieu nous a donné les capacités intellectuelles pour découvrir le sens de ces choses. Et je trouve ça absolument remarquable. Dans mon métier d'ingénieur, en effet, je n'avais pas besoin de l'hypothèse Dieu pour calculer une dalle, pour calculer un pilier, pour calculer un mur. Mais les gens m'auraient dit, si tu calcules un pilier et puis que tu mets des fers d'armature de cette manière ou d'une autre, et puis qu'une fois que tu as fini ton calcul, tu rajoutes, oui, mais il y a toujours l'hypothèse Dieu à mettre dans mon calcul, les entrepreneurs m'auraient dit, mais tu débloques complètement, mon gaillard. Moi, j'ai besoin de savoir combien de béton tu vas mettre, j'ai besoin de savoir quelle est l'épaisseur de ta dalle, l'épaisseur de ton pilier, la force d'après contrainte et le nombre d'armatures que tu mets. Il n'y a plus de place pour l'hypothèse Dieu. Donc, retirer l'hypothèse Dieu de notre démarche scientifique est une bonne chose. Et c'est une chose que la Bible même nous enseigne. C'est-à-dire que la Bible nous a appris nous a appris que Dieu n'est pas enfermé dans la matérialité de notre monde moderne. Mais lorsqu'on parle de l'avenir de l'humanité, lorsqu'on parle d'un enjeu autrement plus important qu'une simple structure en béton, lorsqu'il s'agit vraiment de la question ultime de la création, alors là, je ne peux plus me passer de l'hypothèse Dieu. Parce que le phénomène même de la création, je ne le maîtrise pas. Et ça, c'est justement notre privilège de chrétien, de réintroduire Dieu dans la création. Car les formules mathématiques ne peuvent pas rendre compte du sens ultime de l'acte créationnel. Et c'est ça notre privilège, de réintroduire Dieu dans toute notre lecture du phénomène du fonctionnement de l'écosystème. Parce que, chers amis, si nous n'introduisons plus l'hypothèse Dieu dans notre lecture du phénomène de l'écosystème, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons plonger la jeunesse, plonger les scientifiques, plonger le monde entier dans un fatalisme qui va les conduire au désespoir. Et c'est déjà fait. Et c'est déjà fait parce que vous savez que certaines personnes imaginent déjà tirer un trait sur notre monde, sur la Terre, pour pouvoir reconstruire un nouveau monde dans une autre planète ou ailleurs dans un autre univers. Un multivers, on n'est plus dans la notion de l'univers, mais on est dans une notion de multivers dans lequel on croit qu'on pourra trouver notre salut. Donc, il est capital que nous réintroduisions Dieu dans l'équation. Et si nous introduisons Dieu dans l'équation, eh bien, qu'est-ce que nous apprenons ? Nous apprenons que Dieu reste souverain. Ta justice est pareille aux montagnes divines et tes jugements aux grands abîmes. Seigneur, tu sauves. les hommes et les bêtes, dit le psaume 36. Ou le psaume 107 va dire ceci, « Dieu peut changer les fleuves en désert, les sources en pays de la soif, une terre fertile en saline à cause de la méchanceté des habitants, mais il peut aussi changer le désert en nappe d'eau. » Alors, si nous réintroduisons la certitude de Dieu dans l'équation de la nature, nous découvrons, un, oui, la souveraineté de Dieu. Nous découvrons en effet des textes comme Ésaïe 5 qui dit « Je réduirai en ruine la vigne de mon bien-aimé. Je la réduirai en vigne, je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne pleuvent plus. » C'est un des mots, un des textes, une des affirmations d'Ésaïe. « Je ferai en sorte qu'il ne pleuve plus, dit Dieu. » Ou bien un peu plus loin, dans Ésaïe 13, « Voici vient le jour du Seigneur où Dieu va réduire la terre en désolation. » Ça, c'est l'un des aspects de la signature de Dieu vis-à-vis de la terre. Mais un autre aspect de la signature de Dieu vis-à-vis de la terre, « Je vais sauver les hommes et les bêtes et je vais changer le désert en végétation. » Ça, c'est l'introduction de la variante Dieu, de l'hypothèse Dieu dans notre calcul. C'est de passer de la malédiction de la sécheresse à l'abondance d'une végétation, d'une terre qui a retrouvé pleinement sa végétation. Terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs, réjouis-toi. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Alors le monde verra la gloire du Seigneur. Dieu veut sauver les hommes et les bêtes. Le salut de l'homme est relié au salut des bêtes. Le salut de l'homme est relié au salut de la nature. Et la bonne nouvelle de la résurrection s'adresse aussi bien aux hommes assoiffés qu'aux déserts sans eau et aux bêtes malheureuses. Et aujourd'hui, Ésaïe 35 proclame à toute la terre, « Soyez dans la joie. Hommes et bêtes sont solidaires. Nous faisons partie du même écosystème, mais nous allons pouvoir annoncer aux uns et aux autres la bonne nouvelle de la résurrection. » La bonne nouvelle de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et la bonne nouvelle de la résurrection, c'est celle-ci. Et comme image ultime de ma prédication ce matin, j'avais tellement à cœur de vous donner cette image. Et si j'avais eu le temps de vous faire un résumé, je vous aurais donné cette photographie. Jésus est le médecin qui ôte le péché du monde. Voici l'homme qui ôte le péché du monde. Et Jésus est le médecin qui ôte le péché du monde. Et cette image, il nous faut la communiquer partout. Et il nous faudra la communiquer aussi dans les rassemblements de Greenpeace ou des rassemblements de Extinction Rebellion. Et raconter, dire que nous ne sommes pas dans une dynamique de désespoir. Nous sommes encore dans une dynamique dans laquelle Dieu veut prendre soin du monde entier. Et cette image, c'est celle que j'aimerais vraiment vous laisser au terme de cette prédication. Alors cette image, en fait, elle m'a été inspirée par quoi ? Eh bien, par Apocalypse 22. Mettre Dieu dans l'équation, ce n'est pas banaliser la question écologique. Au contraire, c'est la prendre au sérieux. Parce qu'une des fausses manières que nous aurions, c'est de la banaliser, de dire, bon, enfin, de toute façon, Dieu va tout faire, et puis tout va revenir dans l'ordre, donc je continue à fonctionner selon mes instincts de consommateur. C'est pas vrai. Nous avons à être attentifs, nous avons à prendre soin, nous avons vraiment à veiller notre rapport à nos déplacements, à nos déchets, etc., etc. Vous savez, il suffit de rentrer du Proche-Orient. C'est vrai, ça se voit pas en Suisse. Ça ne se voit pas en Suisse, les déprédations que nous produisons par nos déchets. Mais chaque fois que je me déplace au Proche-Orient, chaque fois que je vais en Afrique, enfin j'étais encore en Irak il y a quelques semaines, mais c'est effroyable de voir des champs qui, à perte de vue, sont couverts de cornets en plastique. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi en Syrie. C'est ce que nous avons vu en Afrique. En Ouganda, les labours enterrent les cornets en plastique de plus en profondeur. Et des champs qui étaient auparavant totalement fertiles deviennent stériles par abus de cornets en plastique qui détruisent complètement le sol. Et ça, c'est nous qui le provoquons. Donc évidemment, en Occident, on ne le voit plus. On ne le voit plus, parce qu'en Occident, nous savons très bien comment il faut faire pour détruire les cornets en plastique. J'ai vu aussi une pollution absolument épouvantable en Grèce, où les cornets en plastique, mais jonchaient le sol à l'infini. Il faut voir ça pour réaliser combien nous sommes dans l'urgence de devoir intervenir, sans parler de Manille, sans parler des villes, qui, elles, ont un impact et qui souffrent l'écologie alors que nous n'en souffrons plus. Donc, agissons, continuons d'agir, mais pas dans le désespoir, pas dans le fatalisme ou le désespoir qui touche une certaine jeunesse, qui fait qu'alors maintenant, vous avez des parents qui disent « je ne veux plus faire d'enfants dans un monde tel que je vis », mais vous sentez un peu l'intensité de cette désespérance. Et ça, en tant que chrétien, nous avons quelque chose à dire à ces gens-là. Non pas simplement leur dire « mais enfin, ressaisis-toi », mais leur dire qu'il y a un médecin qui est là, qui est prêt à les accompagner. Donc ce sens, il vient de l'Apocalypse. Apocalypse 22, c'est ma dernière image, c'est la dernière affirmation de l'Apocalypse. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, un arbre qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Regardez, c'est une représentation moderne. Habituellement, je vais plutôt dans des représentations antiques. Là, j'ai trouvé dans un livre un artiste qui m'est contemporain et qui a représenté cet arbre-là. Normalement, l'arbre, il est sur les deux côtés de la rive, du fleuve, mais il donne ses fruits qui servent à la guérison des nations. Mais je vous invite vraiment à plonger, et c'est ma dernière image, le ressuscité, c'est en même temps le médecin qui va guérir les nations. Alors, le ressuscité, c'est le thérapeute de la terre, et la résurrection de Jésus, c'est la signature de l'œuvre de salut de Dieu, salut de l'homme, salut des animaux et salut de la terre. Amen.